Chapitre 23. La maison recouverte de clins ripolés de blanc aurait pu sembler modeste sans la véranda luxueuse qui en faisait le tour. Duke et Queenie, allongés près des fauteuils en osier, bondirent sur leurs pattes en voyant arriver la Ford Escape. Ces deux magnifiques bergers allemands étaient à la fois des animaux domestiques et des chiens de garde parfaitement entraînés. Jane se gara derrière le vieux pick-up de Gavin, une Ford vert pomme de 1948, qu'il avait entièrement restaurée en l'équipant de pare-chocs et d'une calandre LaSalle qui en faisait une voiture de collection un peu particulière. Elle avait veillé à baisser sa vitre, de sorte que les chiens identifient son odeur avant qu'elle descende de voiture. Ils accoururent en manifestant leur joie par de grands mouvements de queue. Ils se seraient approchés de façon nettement plus menaçante s'ils ne l'avaient pas reconnue. Elle mit un genou à terre et flatta affectueusement les deux bêtes qui la remercièrent en lui léchant abondamment les mains. D'autres auraient pu se formaliser de cet accueil, mais ce n'était pas le cas de Jane. Il s'agissait des gardiens de son trésor, et elle dormait mieux en sachant qu'ils étaient là. Mais elle n'était pas venue ici dans le seul but de les caresser. Elle se releva et se dirigea vers la maison, les deux chiens trottant à ses côtés. Jessica apparut sur le seuil et s'avança dans la véranda avec la démarche fluide d'une personne amputée des deux jambes au niveau des genoux, dont les prothèses se terminaient par des pieds aérodynamiques qui faisaient d'elle une rude concurrente lorsqu'elle courait le 10 000 mètres. Dotée d'un teint de Cherokee et de la beauté caractéristique de ses ancêtres, elle était plus remarquable que jamais. Elle avait perdu ses jambes 9 ans plus tôt, à l'âge de 23 ans, alors qu'elle servait en Afghanistan. Elle n'appartenait pas à une unité combattante, mais les bombes terroristes ne font pas le distinguo entre les unités combattantes et les autres. C'était également là, sur ces terres lointaines, qu'elle avait rencontré Gavin, un soldat sorti indemne des champs de bataille les plus meurtriers. Ils étaient mariés depuis 8 ans. Jane franchit les marches de la véranda d'un bond avant que Jess ne descende, et les deux femmes se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, tandis que les chiens dansaient autour d'elle en fouettant avec leur queue les fauteuils d'osier.
« Pourquoi n'as-tu pas appelé ?» s'étonna Jess.
« Je t'expliquerai. » Elle disposait encore de 3 téléphones jetables, tous en état de marche, achetés dans des villes distantes de plusieurs centaines de kilomètres. Elle ne s'en était pas encore servie, si bien que ses poursuivants n'auraient jamais pu retrouver sa trace. Mais les événements de San Diego l'avaient refroidie. Il n'était pas question de compromettre ce qui représentait à ses yeux un refuge dans un monde aussi dangereux que chaotique.
« Tiens, bonne mine !» remarqua Jess.
« Tu mens mal, ma belle.
Il parle de toi tout le temps.
Je pense à lui tout le temps.
Mon Dieu, que je suis heureuse de te voir !»
Un petit garçon sortit de la maison. Ses yeux bleus brillaient d'excitation. Mais il se tenait dans l'ombre de la véranda, tout timide, indifférent à la présence des chiens avec lesquels il passait généralement son temps à s'amuser. Elle ne l'avait vu qu'une seule fois depuis 2 mois, et, comme lors de sa visite précédente, il semblait effrayé à l'idée de parler ou de se précipiter vers elle, de peur qu'elle ne s'évanouisse comme dans ses rêves. À 5 ans, Travis était déjà le portrait craché de son père. Il avait les cheveux ébouriffés de Nick, son nez fin, son menton volontaire. Le charisme et l'aura d'intelligence qui irradiaient de son regard, tout du moins aux yeux de sa mère, rappelait Nick à cette dernière.
« C'est vraiment toi, »
murmura-t-il. Jane s'agenouilla, pas uniquement parce qu'elle souhaitait se mettre à son niveau, mais parce que ses jambes ne la portaient plus. Il se glissa dans ses bras et elle le serra à l'étouffer, comme si elle craignait à tout moment qu'on vienne le lui enlever, avant de le caresser et de lui embrasser le visage. Elle se gorgeait de l'odeur de ses cheveux, de la douceur de sa peau d'enfant. Lorsqu'elle s'était lancée à la recherche de la vérité, elle n'avait jamais imaginé qu'elle devrait affronter des ennemis aussi puissants et impitoyables, capables de la menacer de tuer son unique enfant, le seul qu'elle aurait sans doute, le témoin vivant de l'amour hors du commun qu'elle avait connu avec son merveilleux père. Nulle part ailleurs, elle n'aurait pu le cacher avec l'assurance qu'il ne craignait rien. Travis ne connaissait pas Jessica et Gavin 2 mois plus tôt, mais il faisait désormais partie de sa famille.
fermement décidée à laver l'honneur de Nick en apportant la preuve qu'il ne s'était pas suicidé, elle s'était lancée sans le savoir dans une aventure sans retour. Les gens qu'elle entendait dénoncer ne la laisseraient jamais s'en tirer vivante, même si elle échouait. Ils avaient mis au point une invention terrible, pour des raisons qui lui échappaient, sans qu'il soit question pour eux de renoncer, quel que soit le prix à payer. À l'aune des meurtres qui avaient déjà eu lieu, la vie d'une mère et de son fils ne pesait rien. Elle ne disposait encore d'aucune information concrète, mais c'était déjà trop, et elle ne savait pas à qui s'adresser tant qu'elle n'aurait pas compris. Le petit garçon s'accrochait à elle.
« Je t'aime, maman.
Moi aussi, je t'aime. Je t'aime tellement. Tu me fais fondre, mon fils. »